Cube Radio. Minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio.
Vendredi 14 janvier, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. Matin un peu froid, il y a encore quelques flocons de neige dans la grande région de Montréal qui vont disparaître au fil de la journée. Moins 7 en ce moment. Là, vous allez voir une tendance inverse. Là. Normalement, ça se réchauffe pendant la journée. Bien, aujourd'hui, ça se refroidit. Ça va aller chercher moins 10 un peu plus tard aujourd'hui pour atteindre moins 24 ce soir et cette nuit. Donc, le froid, cette petite vague de froid qui revient s'installer bien comme il faut. Demain, on parle à peu près moins 17 là, selon Environnement Canada avec du beau soleil, moins 22 la nuit, moins 14 dimanche et on va avoir normalement une belle tempête de neige lundi. D'ailleurs, un peu plus tard à l'émission, on va parler à Frédéric Dion l'Aventurier. Afin d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire là, cet hiver quand il fait froid, quand on est déprimé, pour essayer de retrouver un peu la joie et le plaisir hivernal. Je suis certain que Benoît et Mario vont écouter cette chronique-là, eux qui adorent l'hiver. Alexandre, bonjour.
Salut.
Aimes-tu l'hiver?
Moi, j'aime l'hiver, oui, sincèrement. Bon. Là, les sports hivernaux et tout, moi, ça me fait bien plaisir. Mais je t'avoue qu'en confinement comme ça, je prendrais de la chaleur pour me saisir des parcs montréalais à nouveau pour voir des gens.
Un peu de vitamine D.
Ouais. D, ça ferait du bien en ce moment, mais j'aime l'hiver, somme toute. Oui.
Bon, rentrée scolaire lundi, ça va se faire sans N95 pour les professeurs, sans purificateur d'air dans les écoles, sans test rapide pour les élèves au secondaire. Et avec beaucoup d'inquiétude de la part des professeurs et des parents. Ceci dit, quand on fait le pour et le contre, quand on regarde les enjeux de santé publique du virus, mais aussi de l'absentéisme en classe, de l'école à distance, on a fait et on a décidé qu'il valait mieux que les jeunes retournent à l'intérieur des écoles pour pouvoir socialiser cet apprentissage-là. On va d'ailleurs avoir une professeure tantôt qui est aussi maman en entrevue qui est pas mal à bout, là, qui a une lettre ouverte qui a été publiée dans le Journal de Montréal au cours des dernières heures. Sincèrement, juste lire cette lettre-là, on peut comprendre pour la santé mentale, pas juste des enfants, à quel point ça va être important, le retour à l'école. On a aussi annoncé la fin du couvre-feu lundi, passeport vaccinal qui va être élargi à partir du 24 janvier dans les gros commerces comme les Walmart, les Costco, les Canadian Tire, les Sport Experts. Ce matin, il y a des commerçants qui déplorent la situation, qui disent « Hey, on est une grande surface, il y a moins de contacts dans nos magasins. Est-ce que vraiment ici, on est encore là pour emmerder ou pour protéger les citoyens? » On apprend d'ailleurs que possiblement que le pic, le sommet des hospitalisations pourrait être atteint durant la fin de semaine. Fin de semaine qui risque d'être encore très difficile. Mais au moins, on a annoncé 500 millions de dollars pour le personnel de la santé, des vacances supplémentaires si on fait du temps supplémentaire. Je ne sais pas, Alexandre, si tu as vu hier les camionneurs non vaccinés. On a annoncé d'abord qu'il allait avoir un sursis. Finalement, le gouvernement fédéral est revenu à la charge pour dire non, il n'y aura pas de sursis. Ils devront être vaccinés pour traverser la frontière. Ça crée pas mal de confusion. Sachez qu'ils devront, les camionneurs, être vaccinés pour entrer au pays. Il y a un adolescent qui a été tué par balle hier sur le plateau Mont-Royal, au croisement des rues Rivard et Roi-Est. On va avoir plus de détails aujourd'hui. Là, hier, on nous disait qu'on craignait pour sa vie. Aucun suspect n'avait été appréhendé. Donc, un autre ado tué sur le sol montréalais. Marguerite Blais, ministre des Aînés, va témoigner aujourd'hui normalement devant la coroner Yann Kamel. Et là, selon Radio-Canada, on nous apprend que le gouvernement n'a pas fourni beaucoup, beaucoup de documents qui avaient été promis durant les audiences au cours des derniers mois. Puis finalement, toujours COVID, mais un peu sportif. Novak Djokovic, le ministre australien de l'immigration, a annulé son visa. Pour la deuxième fois, ses avocats disent qu'il compte faire appel, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, restera-t-il en Australie? Pourra-t-il jouer? Pour le moment, du moins, le politique ne le souhaite pas. Toujours dans la COVID, Alexandre, il y a 3 policiers anti-mesures sanitaires de la SQ qui ont été comme réorganisés.
Oui, c'est un bon terme, réorganisés. Ils ont été mutés à des tâches administratives. Là, ces 3 policiers dont on avait appris là, l'existence dans les derniers jours parce qu'ils ont participé dans une vidéo qui a été mise en ligne le 30 décembre dernier à une assemblée de conspirationnistes, de complotistes qui dénonçaient les mesures sanitaires, entre autres, font partie d'un groupe de pression qui est appelé Policiers pour la Liberté Québec, hein, Police for Freedom, un mouvement, j'en avais parlé un peu plus tôt cette semaine, qui est né en Espagne, qui dénonce toutes sortes d'applications de mesures sanitaires par les policiers. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui s'était dite le mercredi très préoccupée par la situation. Donc, cette mutation est décrétée en attendant les résultats d'une enquête interne de la division des normes professionnelles de la SQ.
Et là, aux États-Unis, c'est pas des jours faciles pour Joe Biden. Hier, ça a été particulièrement difficile pour le président américain.
Comme quoi, un malheur ne vient jamais seul. Hier, c'est pas un, mais bien 2 revers que subit Joe Biden. Hier, il bataillait là, pour sauver là, du naufrage parlementaire sa vaste réforme électorale qui visait à protéger l'accès aux Afro-Américains aux urnes, entre autres les Afro-Américains, parce qu'il y a plusieurs États, entre autres républicains aux États-Unis, qui restreignent de toutes sortes de manières, par toutes sortes de lois, ouais, l'accès aux droits de vote.
Surtout pour les populations afro-américaines.
Surtout pour les minorités, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès. Hier, le président américain qui, pour une fois, là, c'est très rare qu'il se déplace, était au Capitole. Il n'a rien pu faire, par contre, parce que habituellement, en théorie, ça prend 60 voix au Sénat pour faire passer une loi du genre. Le problème, c'est qu'il y a 51 sénateurs démocrates qui sont là-bas, incluant Kamala Harris, la vice-présidente. Donc, avec une majorité simple, à 51 voix, ça pourrait passer, mais c'est pas une pratique qui est adoptée habituellement.
Ouais, c'est parce que ça prend 60 sénateurs pour faire arrêter les filibusters. Donc, techniquement, les républicains peuvent parler sans arrêt, sans appeler le vote. Donc, on ne vote jamais finalement sur un projet de loi à cause d'une vieille tradition sénatoriale.
Exact. Et c'est donc cette manœuvre-là qui a été torpillée par 2 sénateurs démocrates plus modérés. Joe Manchin, un sénateur centriste, puis Kirsten Sinema, qui ont, malgré une rencontre là, de 1h20 hier soir avec le président américain, ont décidé quand même de bloquer sa manœuvre. Et je disais, c'est 2 revers pour Joe Biden. Il y en a un autre. La Cour suprême a bloqué également hier son obligation vaccinale en entreprise. C'était dénoncé là comme abus de pouvoir par les élus républicains, évidemment, alors que seulement 62% de la population américaine qui est complètement vaccinée. On espérait pouvoir imposer soit des tests réguliers, soit la vaccination complète aux entreprises de plus de 100 salariés. Ça n'a pas passé. Malgré tout, ils ont validé l'obligation de vaccination pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux.
Quand même. Un petit pas alors qu'on voulait en faire beaucoup plus. Et là, les Oath Keepers, ça c'est quoi? C'est un mouvement d'extrême droite?
Milice d'extrême droite.
On parle-tu du Capitole là-dedans?
On parle très exactement du Capitole. C'est le chef et fondateur des Oath Keepers. Je le dis, c'est une milice d'extrême droite anti-gouvernement, comme il y en a plusieurs aux États-Unis, mais les Oath Keepers sont très nombreux. Il a été arrêté hier pour son rôle dans l'assaut sur le Capitole. Stuart Rhodes, de son nom, un homme de 56 ans, puis il y a 10 autres membres également de cette milice qui ont été inculpés pour sédition avant hier par un grand jury américain. Sédition, là, c'est un chef d'inculpation qui est extrêmement important. C'est passible de 20 ans de prison, voire encore plus. On parle là, d'avoir tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir en faisant usage de la violence. Puis c'est vrai parce que les Oath Keepers ont organisé des transports de tout le pays vers Washington à la veille, évidemment, de la certification du vote du 6 janvier. Ils ont fourni des armes, des tenues de combat. Bref, ils étaient organisés pour amener le plus de gens possible à l'endroit. Donc, on va voir quelle peine ils vont encourir. Mais disons que c'est une victoire quand même là, pour le ministère de la Justice américain.
Et une petite nouvelle légère du vendredi. Un homme du Dakota qui a été arrêté parce que il a fait des brownies aux potes et ils n'ont pas été mangés par la bonne personne.
Ils n'ont pas été mangés par la bonne personne, effectivement, soit lui-même. Hein. C'est un homme de 46 ans qui est revenu du Colorado où il a acheté une livre de beurre de THC, donc pour faire toutes sortes de produits dérivés comestibles de cannabis. Le problème, c'est qu'il a fait ça avant d'aller se coucher. Il a fait une belle grosse batch de brownies aux potes. De brownies. Hein, une belle grosse recette. Il a laissé ça refroidir. Il est allé se coucher. Le problème, c'est que sa mère, elle, a vu les brownies, s'est dit, tiens, c'est parfait, je vais aller la porter au centre communautaire où il y a, entre autres, toutes sortes de personnes âgées. C'est un centre pour personnes âgées. Et elle a amené ça à une partie de carte. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes âgées qui ont mangé des brownies aux potes et qui se sont mis à ne pas se sentir très bien. Et donc, la police qui a enquêté pour des empoisonnements potentiels. Et finalement, ben, il fera face à des chefs d'accusation de substances contrôlées, possession de substances contrôlées. Disons qu'il aurait dû garder ses brownies bien cachés dans sa chambre.
Ça a dû être assez comique.
Ça a dû être épicé, oui.
Merci, Alexandre.
Salut.
Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ça serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chocs qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière Abdel-Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Allô, allô.
Rentrée scolaire lundi. Yasmine, as-tu été rassurée hier par ce point de presse?
Rassurée, je ne sais pas, mais ça s'inscrit un peu dans l'air du temps. Les enfants vont revenir à l'école. Évidemment qu'il y avait des petits enjeux communicationnels quand on nous parle de délestage dans les écoles et de la contribution des parents pour surveiller quelques classes le temps que des enseignants reviennent. Je sourcille et je me dis qui a eu la brillante idée d'écrire cette ligne-là parce qu'elle est vraiment pas bonne. Mais tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Tu vas me dire les N95, les purificateurs d'air? Oui, oui et oui. Mais quand on voit que Dr Luc Boileau à côté dit que les N95 ne sont pas nécessaires, et j'aimerais quand même noter la différence entre le langage politique et le langage dit scientifique. Lui dit qu'ils ne sont pas nécessaires. Le gouvernement disait jusqu'à il y a quelques jours qu'ils pouvaient être dangereux et qu'ils pouvaient constituer un risque. Donc, on évolue. Alors, je suis optimiste. On est vendredi.
Dans deux semaines.
Je veux voir les choses de la bonne manière.
Je suis prête à parier que dans deux semaines, on va les permettre.
On va les envoyer. Tout d'un coup, les N95, ils vont évoluer de dangereux à pas opportun, pas nécessaire, à tout d'un coup... On va les encourager pour finalement les obliger. C'est toujours comme ça depuis le début de la pandémie, mais on évolue. On évolue, Philippe-Vincent, on évolue, Dominique. C'est ça la bonne nouvelle du point de presse.
Dominique.
Moi, je suis content que tu te ranges finalement du côté des optimistes. Yasmine, il était temps, là, après 22 mois. Tu sais, mais je prends date, là, le 14 janvier 2022. C'est là que tu t'es dit les choses s'en vont dans le bon côté.
Ben, quand même.
Non, mais pour vrai, ce que je comprends pas, en fait, c'est que pourquoi ne dit-on pas, si les profs considèrent, pour eux, parce que là, c'est le nouveau gadget, là, le N95, là, tout le monde en parle.
Oui, l'Association médicale canadienne le suggère et le recommande pour le grand public. L'Ontario le fait pour les professeurs, le Manitoba aussi. Le CDC risque de changer sa recommandation aux États-Unis bientôt là-dessus pour le recommander aussi au public. Là.
Donc,
au Québec.
Si ça fait plaisir aux profs, qu'ils s'en procurent et il n'y a aucun problème pour qu'ils le portent en classe. C'est pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas la porte en disant, mais écoutez, si pour vous, là, professeur, enseignant, c'est quelque chose de très important, allez-y. Au lieu de dire, ben écoutez, non, nous, on voit pas la nécessité pour l'instant, on n'est pas rendu là, dites, ben prenez-en, achetez-en, organisez-vous, puis portez-les. Puis juste d'ouvrir cette porte-là, je pense que ça ferait baisser la pression un tout petit peu plutôt que de faire point de presse après point de presse pour dire exactement dans le champ lexical que Yasmine utilisait tantôt, c'est dangereux, faux sentiment de sécurité, on a déjà entendu ça pour d'autres masques, et le reste. Donc, je comprends pas, il me semble que ça coûte pas cher que de dire, écoutez, s'il y a des profs qui souhaitent s'en procurer, il y a aucun problème, nous, on n'empêchera pas les profs d'en porter en classe.
J'ai une idée comme ça que vous pourrez partager avec le gouvernement si vous voulez. Pourquoi on va pas plus loin puis on dit, regardez, il y a certains profs, on va vous les fournir, on va vous les donner. Et on va même demander à des professeurs d'université, des chercheurs, des experts, de faire une surveillance et de voir si ça change quelque chose. De faire des sondages. Êtes-vous plus à l'aise? Est-ce que vous êtes plus confortable? Est-ce que les jeunes en arrière entendent? Est-ce que les profs qui ont eu des N95 n'ont pas eu la COVID alors que ceux qui avaient des masques dans la même classe, par exemple, l'ont obtenu ou ont été contaminés? Peut-être qu'on pourrait saisir l'occasion pour dire... faisons nous-mêmes nos recherches. Dans 2 semaines, 1 mois, 4 mois, 6 mois, on sera en mesure de dire ça fonctionnait ou ça ne fonctionnait pas.
Je ne sais pas si le gouvernement va vouloir aller là. Le problème, c'est qu'on a déjà joué dans ce film-là. C'est pour ça que tout le monde est comme « s'ils nous disent-tu la vérité? » C'est exactement le même débat qu'il y avait au début sur les masques. Les masques, vaut mieux ne pas en porter. Ça pourrait être plus dangereux à en porter que ne pas en porter. Il y a des risques. Et aujourd'hui, c'est ce mauvais film auquel on a joué en début de pandémie qu'aujourd'hui fait en sorte que on les regarde, on est comme ils nous disent-tu la vérité, les risques vont-ils être amoindris si on décide de porter notre masque N95? Évidemment que un professeur qui décide d'aller dans un magasin grande surface où il les vend le N95 puis décide de le porter en classe, et la CSST va pas débarquer là-dedans pour lui dire t'as pas le droit de le porter. C'est une évidence. Par contre, là, c'est le gouvernement qui ne veut pas en fournir dans les écoles. Il n'est pas dit non plus que tous les professeurs veulent porter le N95, mais le plus important, c'est d'en fournir pour ceux qui le désirent, ceux qui veulent se sentir en sécurité pour enseigner, pour être en contact avec des élèves qui sont soit vaccinés, soit pas vaccinés. Pour moi, c'est la moindre des choses. Je pense qu'on va finir par y arriver. Je pense qu'ils sont en train de régler des questions d'approvisionnement et qu'on va finir par y arriver parce que je peux pas croire. Là. Anyway, on a déjà joué dans le film. On sait comment ça se termine. C'est une obligation de le porter.
Dominique, sur les autres mesures qui ont été annoncées, là, fin du couvre-feu lundi, est-ce qu'on t'a convaincu que ça valait la peine d'avoir un couvre-feu? Est-ce qu'on te convainc que le passeport vaccinal pour les grandes surfaces comme le Costco, le Walmart, le Canadian Tire, les Sports Experts et autres, c'est une bonne chose aussi?
Ben moi, c'est sûr que ça a été tellement court. C'était quoi, 5 semaines, le couvre-feu, que je trouve que ça...
Ben, même pas.
5 semaines de trop?
5 semaines déjà?
Je pense que ça fait 5 semaines, oui.
Et que le temps passe vite. Ben, on est le 14 janvier, ça fait 2 semaines. Excusez-le, mais... Ben, le temps est long à Québec, là. 5 semaines, Dominique, ça fait 2 semaines, le couvre-feu.
Je compte en jour de chat, là, tu sais, chaque jour vaut plusieurs années. Non, mais...
Le soleil se couche 2 fois à Québec.
Ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça a été court pour qu'on puisse affirmer hors de tout doute ensuite que ça a vraiment eu un impact. Ceci étant, je me réjouis que ça se termine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, manifestement, avaient énormément de choses à faire en 22h et 5h dehors.
Ben moi, j'ai vu beaucoup de monde sur les routes cette nuit par rapport aux autres soirs depuis le couvre-feu.
Pour vrai?
Ah oh, ouais, au moins le triple. En même temps, je voyais personne depuis 2 semaines. Mais
non, c'est ça.
Mais il y a vraiment considérablement beaucoup plus de monde, moi, cette nuit sur les routes.
Écoute, nous, moi, il y a pas beaucoup de gens qui se promènent, même quand il y a pas de couvre-feu autour de chez nous, là, fait que c'est difficile pour moi d'évaluer. Ceci étant, moi, je me réjouis du retour à l'école, je me réjouis des grandes surfaces aussi. N'importe quoi qui va faire en sorte que des gens vont décider de prendre rendez-vous pour leur première dose, je suis d'accord, OK? Donc, c'est simple, que ce soit de la contribution santé jusqu'à la SQDC, là, sur tout ce spectre-là, moi, je suis d'accord, parce que ultimement, c'est ça la variable qui est la plus importante. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, c'est la vaccination qui réduit le plus les chances de développer une forme grave de la maladie. Fait que moi, pour ça, là, je serai toujours du bord de ceux qui sont d'accord.
Dominique, il est toujours d'accord avec les mesures du gouvernement, peu importe qu'elles soient cohérentes,
Dominique, vendredi matin, tu te fais attaquer comme ça.
Ben non, mais c'est correct. Moi, souvenez-vous que vous parlez à quelqu'un qui suit les flèches à terre à l'épicerie.
C'est vrai, c'est vrai.
Ne perdez jamais ça de vue, ça va vous permettre d'expliquer beaucoup de mes raisonnements.
Comment tu fais quand les flèches décollent?
Ben, je vais plus.
Parce que moi, tu vas plus à l'épicerie.
Change d'épicerie, c'est plus simple comme ça.
Non, mais honnêtement, pour le couvre-feu, personnellement, là, je suis dans mon lit à 10 heures. Mais savoir que j'ai pas le droit d'être dehors me cause un stress. Et honnêtement, 2 semaines, ça a duré 2 semaines. Puis Dominique dit on c'est pas assez long pour pouvoir savoir si ça a eu un impact ou pas. On l'a quand même vécu pendant plusieurs mois l'année dernière, puis c'était pas bien fun, tu sais. Fait que on a déjà vécu le couvre-feu pour une période beaucoup plus longue. Mais 2 semaines, c'est quand même 2 semaines dans lesquelles des libertés sont suspendues sans nécessairement avoir des raisons, des justificatifs qui soient très clairs sur leur impact. Moi, je me réjouis du fait qu'on lève cette mesure-là puis qu'on impose des mesures comme le passeport vaccinal dans les grandes surfaces, parce que ça, évidemment, ben ça a un impact réel parce que ça diminue le nombre de non-vaccinés dans des milieux où on n'a pas le choix d'aller, où on veut aller, où on veut continuer de vivre. Et ça, je pense réellement que ça va avoir un impact sur le taux des premières doses qui vont être inoculées dans les prochains jours.
Bon. Parlons de Marguerite Blais, Dominique, ministre des Aînés, qui va être devant la coroner aujourd'hui. Est-ce qu'on s'attend à de petites explosions, à quelque chose qui pourrait mettre le gouvernement dans l'embarras?
Ben, moi, si j'étais encore membre du gouvernement, je serais assis devant mon téléviseur. Je sais pas si ça va être télévisé. Je pense que le PQ avait demandé que ce soit télévisé. Mais en tout cas, je m'organiserais pour trouver un lien où est-ce que je suis capable d'écouter ce qu'il va se dire. Parce que,
mais tu ne le mettrais pas sur la page Facebook du gouvernement en direct, là.
Peut-être pas, ça serait trop ça serait trop large comme diffusion, parce que moi ça m'inquiéterait honnêtement. Madame Blais nous a démontré dans sa dernière grande entrevue qui était avec Enquête, je crois, ouais. Il y a de cela déjà quelques dizaines de mois là, que si la pression montait, elle était vite pour mettre quelqu'un en dessous de l'autobus. Hein, la dernière fois, c'était le premier ministre. Là, je sais pas qui ça pourrait être, mais il y a un risque pour des collègues députés, pour des collègues ministres. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent en communication au gouvernement qui ont plutôt hâte à 17h qu'à 8h30 ce matin.
Yasmine.
Ben Marguerite Blais que disait à Dominique, oui, elle a souvent ce réflexe de vouloir tellement se protéger qu'elle oublie qu'elle joue en équipe, puis que peu importe qui sont les autres, est-ce qu'ils font partie de son équipe ou pas, c'est pas grave, elle peut les sacrifier pour pouvoir protéger son image. Et évidemment, ben là, ça va être très important. Va-t-elle encore ressortir la cassette qui sort aux 6 mois, que c'est le parent pauvre, les CHSLD, c'est le parent pauvre, les personnes aînées, qu'elle s'est toujours battue, que ce sont leitmotiv politiques. Si c'est ça, ben je pourrais lui écrire son discours. Il est déjà connu depuis une dizaine d'années. Autrement, j'espère apprendre plus sur ce que Madame Blais a titre de ministre. Et là, c'est toute la question de l'imputabilité ministérielle, la responsabilité ministérielle. Elle, c'est quoi les questions qu'elle a posées, c'est quoi les demandes qu'elle a formulées, puis quels sont les suivis qu'elle a faits à titre de ministre. Si elle n'est pas capable de répondre à ces 3 questions, ça risque d'être une catastrophe, son audition devant la coroner.
Allons-y avec une seule question. Se sentait-elle en charge? Moi, si on est capable d'avoir une réponse à cette question-là, là, je pense que déjà c'est éclairant pour le reste.
Oui, mais Dominique, ça, elle a déjà eu cette question-là, puis à Enquête notamment, puis elle a dit, vous savez, on a le pouvoir qu'un PM nous donne. On est responsable. Voilà, c'est ça sa réponse.
Elle a une deuxième chance d'avoir la bonne réponse.
Ouais, mais en même temps, M. Arruda est plus là, puis déjà, on sentait qu'elle voulait peut-être le blâmer un petit peu là-dedans. Alors peut-être qu'il pourrait servir de bouc émissaire et tout le monde en sera content aujourd'hui. Je voulais vous entendre sur ce sondage Main Street qui a été réalisé pour l'actualité du 6 au 8 janvier sur les intentions de vote au Québec. La CAQ qui descend quand même pas mal à 38 %. Là, on s'entend que pas mal tous les autres partis seraient bien contents d'avoir ces chiffres-là. Le Parti libéral du Québec, 20 %, ça bouge pas. Ça, c'est comme une constante. Les autres sont à 20, peu importe. Québec solidaire à 19, un point derrière le PLQ. Parti conservateur à 13 et le Parti québécois à 10. Dominique, c'est un bon sondage pour presque tout le monde, sauf les libéraux puis le Parti québécois, ça?
Ouais, mais bon, est-ce que c'est un bon sondage, premièrement? Parce que moi, quand je vois dans les sous-échantillons, puis je sais que ça peut ne pas être représentatif, mais que le PQ scorerait plus fort, ou aussi fort, en tout cas, chez les Anglos que chez les Francos, j'ai un doute, que le Parti conservateur serait autour de 20-22 % à Québec, j'ai un doute. Moi, si je fais le tour de mon quartier, je pense pas que je vais trouver une personne sur 4 qui a envie de faire un X à côté du nom d'Éric Duhaime. Ceci étant, c'est un sondage qui est scientifique. Est-ce que c'est un sondage qui, une fois de temps en temps, ce qu'on dit en anglais, les outlier polls, là, qui sort un peu de la marge, puis que dans 5-6 sondages, on va pouvoir se dire finalement, il est à côté de la plaque, ou est-ce que c'est un sondage qui détermine une nouvelle tendance puis une nouvelle réalité dans la vie politique québécoise? Ça, il y a que l'avenir qui va nous le dire, mais je sais que hier, il y avait 2 partis qui étaient très, 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 très fiers de le partager. C'était le parti d'Éric Duhaime, le Parti conservateur, et évidemment Québec solidaire, qui disait « On n'a jamais été aussi haut de notre vie dans un sondage. Enfin, en tout cas, eux, je pense qu'ils préfèrent que ce soit un prédicteur de tendance, alors que le PQ, la CAQ et les libéraux préfèrent se dire « c'est probablement un sondage dont on parlera plus dans deux
ans ». Mais Dominique, tu l'as dit, les deux partis qui étaient contents, c'est Éric Duhaime qui est complètement à droite de l'échiquier politique et Québec solidaire qui est complètement à gauche de l'échiquier politique. Et là, ça, on peut dire qu'il y a une polarisation des intentions de vote quand ça va des deux côtés là de manière aussi marquée. Je sais pas pour la qualité du sondage, mais ce qui est certain, c'est que c'est sûr que les dernières semaines vont coûter des points politiques à François Legault, qui peut se permettre d'en perdre, étant donné qu'il caracole dans les sondages depuis plusieurs mois, il peut se permettre d'en perdre quelques-uns et être largement majoritaire en octobre prochain, ce qui n'est pas des bonnes nouvelles pour les libéraux qui sentent le souffle de Gabriel Nadeau-Dubois et de Québec solidaire sur leurs épaules et qui ne changent pas d'un iota dans leurs intentions de vote. C'est là où le bas blesse. Québec solidaire pourrait se retrouver opposition officielle si la tendance se maintient.
Wow, ça serait surprenant.
Je veux juste prendre une seconde pour saluer la préscience des libéraux qui disaient on est comme Québec solidaire, mais fédéraliste. Ben, voyons, il y a juste un point qui les sépare aujourd'hui.
Bon, puis en même temps, à la CAQ, on aime mieux être à 38 qu'à 45, avoir tous les députés les plus chialeux dans notre caucus, on aime mieux les avoir dans l'opposition. Yasmine Dominique, à lundi.
Salut.
À lundi.
Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Philippe-Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité, une vision nouvelle des enjeux de la société.
Cube Radio.
Cube Radio.
Cube Radio. Autrement dit.
Cube Radio.
En direct à LCN.
Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Bonjour Philippe Vincent.
Salut Marianne.
Parlons de la réouverture des écoles. Donc, ça va se faire lundi. Et là, on nous dit pas nécessaire d'y aller avec des masques N95 là, dans les classes régulières. Pas nécessaire non plus d'améliorer l'aération, la ventilation et tout ça. Faites-nous confiance, finalement.
Ouais. Oui, à des experts qui nous ont quand même déjà demandé de leur faire confiance et avec lesquels on est un peu perplexes là, sur les masques et autres. À un moment où on a des experts à l'extérieur là, de la santé publique et des instituts québécoises qui nous disent que ça prendrait une meilleure ventilation. Le N95, par exemple, l'Association médicale canadienne, le Manitoba, l'Ontario, il y a énormément d'experts aux États-Unis aussi qui disent « Utilisons la version qui est pour les citoyens et non pas pour le réseau médical afin de mieux se protéger de façon générale, là, pas juste pour les professeurs. » Alors moi, je serais pas surpris là, que dans quelques semaines, ce masque-là devienne d'abord accessible puis fort probablement même recommandé dans certaines circonstances, notamment à l'intérieur des classes. Le gouvernement a quand même perdu une belle occasion de dire on va en mettre dans certaines classes pour évaluer, pour faire cette étude-là, pour demander aux professeurs comment ils se sentent. Est-ce que c'est un sentiment de sécurité? Est-ce que c'est un faux sentiment de sécurité? Ou au contraire, on réalise avec des données, là, on va avoir des classes, on va être capable de le faire dans ces groupes-là, ces études-là, pour voir les professeurs. On aurait pu avoir cette occasion-là de le faire en ce moment. Pour la ventilation, même chose. On continue de nous dire que ça ne change rien, que ça sert à rien, que les purificateurs d'air, alors qu'en Ontario, dans les écoles privées au Québec, on en a, alors que les échangeurs d'air, la qualité de l'air, ça fait des années qu'on en parle au Québec. Sincèrement, ça aurait pris, encore une fois, les experts qui viennent expliquer clairement pourquoi on ne le recommande pas, quelles sont les raisons qui sont utilisées, quelles sont les études scientifiques sur lesquelles on se base pour être en mesure de voir si oui ou non ça fonctionne. Parce que quand on entend les experts qui ne sont pas au gouvernement nous dire la ventilation est l'une une des clés pour améliorer et s'assurer que la transmission par aérosol, par micro-gouttelette, qu'on soit capable de lutter contre ça, ben ça fonctionne et ça aide l'aération. On l'a vu dans certaines études. Donc, sincèrement, encore une fois, on peut être perplexe, on peut se poser des questions, surtout qu'on fait juste nous dire « Non, inquiétez-vous pas, c'est correct. Inquiétez-vous pas, c'est correct. » Alors qu'aujourd'hui, « Inquiétez-vous pas, c'est correct. » Dans la situation actuelle, c'est pas nécessairement de bons arguments.
Parlons maintenant des cas qui, nous dit-on, se stabilisent. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir quels sont les indicateurs qui permettent de dire ça. Mais chose certaine, oui, les cas stabilisent, mais on nous dit qu'on est à la veille, finalement, du pire week-end en termes d'hospitalisation.
Ouais, parce que là, ce qu'on a fait avec l'éducation, c'est de dire, ben, pour la santé publique, c'est bien pire de garder les jeunes à l'extérieur des écoles plutôt que de voir qu'il y a une contamination avec le virus parce que les jeunes sont moins contaminés, mais les soignants, en ce moment, qui sont débordés. On pense à des niveaux de délestage 5 qui se disent « Oui, mais nous, le système de santé est sur le point de craquer. » Alors, comment conjuguer tout ça, un début de retour à la normale alors que les hospitalisations continuent d'empirer à un moment où il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de contact à l'extérieur? Il y a vraiment encore beaucoup de craintes du côté du réseau de la santé. Et là, bon, tant mieux si les cas, si on a atteint un plateau dans les cas, tant mieux si on va atteindre ce fameux pic des hospitalisations durant la fin de semaine. Il va quand même falloir se rendre à ce pic-là. Il va quand même falloir accepter et gérer cette hausse des hospitalisations. Mais après, il va falloir aussi qu'on nous explique sur quoi on se base, comme tu le disais, là, parce qu'on ne teste plus la population en général. Donc, on est en mesure quand même de voir avec certains...
C'est pas l'eau non plus.
Bien, on teste pas l'eau non plus.
On teste plus l'eau.
Bien, c'est ça. Donc, on est en mesure de se dire, bon, avec ceux qui sont testés, on peut faire peut-être certaines corrélations, mais ils sont dans des milieux un peu particuliers. Il y a quand même des bonnes nouvelles.
Taux de positivité.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça dépend encore qui va se faire tester, pourquoi, comment. On revient à des tests aléatoires ou on revient à des tests symptomatiques. Tu sais, quand on regarde aussi les hospitalisation, puis on nous dit que la moitié le sont pas parce qu'ils ont développé des symptômes de la COVID, mais parce qu'ils sont asymptomatiques. On se dit, bien, si à peu près la moitié des gens qui sont blessés ont la COVID, ou qu'il y a une grande partie des gens blessés qui ont la COVID, est-ce qu'on peut faire une corrélation avec la société en général?
Puis dire, la même question.
Bien, c'est tous ces chiffres-là où on se dit, peut-être que ça vaudrait la peine là, d'avoir des experts de l'INSPQ ou autres qui viennent nous parler de leurs chiffres, qui viennent répondre aux questions, qui prennent le temps de le faire, pour qu'après ça, les journalistes sont en mesure de dire, bon, regardez, là, j'ai compris, là, je vais vous l'expliquer, je vais vous le clarifier. Ce serait pertinent pour que les gens qui doivent vivre avec ce virus-là, qui doivent vivre avec les décisions du gouvernement, puissent mieux les comprendre.
Parlons du passeport vaccinal, donc dans les grandes surfaces. Ça inclut d'ailleurs les quincailleries, hein, qui étaient pourtant un service essentiel. Et il y a une anane, finalement, fin du couvre-feu. On dit le pire est passé, donc on peut lever ce couvre-feu.
Oui, mais encore une fois, le pire est passé, peut-être, mais est-ce qu'on le sait vraiment? En deux semaines, est-ce que le couvre-feu a vraiment été utile? Tant mieux qu'on enlève le couvre-feu, qui était une mesure assez particulière. Il ne faut pas qu'on s'habitue à ce genre de mesure draconienne-là, de dire aux citoyens, vous n'avez pas le droit de sortir de 10h à 5h du matin. Après ça, pour les grandes surfaces, on décide d'ajouter quand même une couche de plus. Donc, on espère être capable d'encourager les gens qui vont dans ces grandes surfaces-là. Peut-être, idéalement aussi, d'aller chercher des gens à qui on n'a pas pu parler depuis 22 mois, depuis un an, pour dire que le vaccin est important. Ces minorités, ces gens qui n'écoutent pas nécessairement les nouvelles, qui sont un peu plus marginalisés, de leur dire, regardez, si vous voulez rentrer, voici, il faut se faire vacciner, voici comment ça va se faire. Est-ce que ça va être de cette façon-là? Je suis peut-être un peu optimiste, un peu rêveur, mais espérons que les gens qui veulent y aller, qui apprennent qu'ils ont besoin d'un passeport vaccinal, ne se sentent pas davantage stigmatisés, mais puissent être dirigés vers les ressources pour aller chercher ce vaccin-là. Après ça, j'entendais ce matin, et je lisais ce matin, des propriétaires de grands centres dire, ben, on est des grands centres. Il y a de l'espace. On n'est pas collés. À un moment donné, est-ce que là encore, c'est une mesure pour emmerder les gens ou c'est une mesure pour protéger les gens? Si c'est pour emmerder, dites-le. Dites-le. Si c'est ça que vous voulez faire au gouvernement, dites-le.
Ouais.
La plupart des gens vaccinés vont sûrement être d'accord avec ça. Mais au moins que ce soit clair que si c'est de la santé publique, c'est de la santé publique. Si c'est une mesure vers la coercition de dire aux gens, vous devez être vaccinés, sinon il y aura une amende. Parce que hier, François Legault a utilisé le mot amende plutôt que vaccin-pôt, où il n'est pas sûr encore le mot qu'il va utiliser. Donc, si c'est là-dessus qu'on se dirige, ben dites-le aussi clairement.
Merci beaucoup, Philippe-Vincent.
Salut, Marianne. Bonne fin de semaine. Bonne rentrée lundi, d'ailleurs, à tous ceux qui vont se préparer à cette rentrée scolaire.
Oui, clairement. Avec la tempête par-dessus ça.
Mais oui, ça va être le fun. Salut.
Merci.
Cube Radio.
Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe-Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique.
Cube Radio.
Salut Jean-François.
Allô Philippe-Vincent.
Alors, le Canadien qui en a perdu une, mais qui aurait peut-être pu la gagner.
Ouais. Je vais revenir sur les buts sur le but en prolongation, ben oui. Mais sur les deux décisions. Vous parlez du match tout d'abord, le Canadien qui a eu une première période lamentable, mais finalement après ça, deuxième, troisième période, on a bien joué du côté du Canadien et même en prolongation, on a dominé la prolongation. On a été en contrôle de la rondelle pratiquement tout le temps. Donc défaite de 3-2 en prolongation hier. J'ai bien aimé Pitlick, le nouveau qu'on est allé chercher au balotage cette semaine. Le retour de Romanov a fait du bien aussi à la ligne bleue. C'est un gars qui prend de plus en plus d'assurance. Il est allé d'un solide coup d'épaule hier. Caulfield a aussi été très bon. Ça, c'est rassurant. J'ai bien aimé le match de Mike Hoffman. Donc, il y a quand même des points positifs. Puis ça fait longtemps, il me semble qu'on n'avait pas parlé de points positifs chez le Canadien. Un petit peu plus de conviction aussi de la part de plus de joueurs. Au lieu que ce soit juste 2-3 joueurs qui arrivent de Laval puis qui veulent se tailler un poste dans la Ligue nationale de hockey, on a vu plus de conviction. Il y a Samuel Montembeau qui a eu des hauts et des bas. Il a fait de beaux arrêts, il était chanceux avec ses poteaux. Malheureusement, le deuxième but qu'il a donné à Patrick Kane, qui a été le but qui a poussé le match en prolongation, n'aurait malheureusement pas dû rentrer. Et là, je reviens sur ce but-là en prolongation. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir aux nouvelles ce matin parce que tu devais être couché hier soir lorsque le match est terminé.
Couché. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu et je le vois dans ma tête.
Bon. Dans le fond, le joueur des Blackhawks, Kourachev, s'en va en semi-échappée. T'as Hoffman qui court après, qui réussit d'ailleurs un très beau back-check, comme on dit dans le langage de hockey, un beau repli. Et essaie d'y aller avec son bâton, ça réussit pas. Un bon coup d'épaule. Et là, ce que ça fait, c'est que tout le monde se retrouve dans le fond du but. Tu sais, tout le monde arrive à pleine vitesse. Et l'arbitre sur le jeu n'accorde pas le but. Après reprise vidéo, on accorde le but selon le règlement 61.3, comme quoi quand un joueur défensif déplace le but est bon. Là où ça m'étonne, moi, là, c'est que c'est dur à dire que c'est le joueur défensif qui a déplacé le but. Ouais. Tout le monde rentre dans le but. Oui, ça semble être Hoffman parce qu'il veut se protéger. Il met sa main, mais t'as aussi sur la barre horizontale, t'as aussi le genou de Kourachev qui rentre dans le poteau, lui, à gauche. Puis t'as Montembeau qui se retrouve cul par-dessus d'être, mal dire. C'est vendredi matin, on peut dire ça, dans le fond de son but. Il n'y a plus de bouclier, il n'y a plus rien. C'est une collision, là. Fait que, puis la rondelle rentre au moins une à deux secondes. Vous allez dire, c'est court, mais une à deux secondes au hockey, c'est quand même assez long après le jeu. On décide d'accorder le but. Et d'habitude, pour renverser une décision, il faut que ça soit hors de tout doute, ce qui est, à mon avis, pas le cas. Et par la suite, d'ailleurs, ça, c'était interminable, moi qui avais hâte d'aller me coucher. Là, on regarde le hors-jeu, parce que Kourachev, lorsqu'il a traversé la ligne bleue, avait les deux patins dans la zone du Canadien, dont un qui était un peu surélevé, mais au-dessus de la ligne bleue. Et il transportait la rondelle vers l'arrière. Donc, la rondelle, elle, était en zone neutre. Donc, logiquement, c'est un hors-jeu. Mais si tu es en contrôle, c'est bon. Mais là, ça dépend de où est-ce que les patins sont placés. Encore là, difficile de le mettre hors de tout doute. Ben, crêlez pas. Les arbitres ont décidé que les deux décisions allaient du côté des Hawks. Et c'est comme ça que s'est terminé le match.
Il était tanné d'arbitrer hier.
En tout cas, le Canadien cette année, il n'y a rien, mais rien qui fonctionne pour eux autres. Et j'ai vu des buts refusés pour beaucoup moins que ça, là, pour le moindre petit accrochage sur le gardien. On passe devant, on l'accroche avec notre main, avec nos faufounes, quelque chose comme ça, le but est refusé. Et là, hier, on a décidé d'accorder le but. Alors, c'est comme ça que ça s'est terminé pour le Canadien, malheureusement.
Bon, puis un petit mot sur Novak, qui finalement, gouvernement australien, refuse, cancelle, annule son visa pour une deuxième fois.
Oui, mais ça veut pas dire qu'il est expulsé pour autant. Là. C'est long, cette saga-là, puis il serait temps... J'ai comme l'impression qu'il est aux prises avec un fonctionnaire qui a décidé, là, lui...
J'ai l'impression, moi, que c'est des politiciens qui ont décidé de faire la politique là-dessus.
Oui, exactement. Puis il y en a un qui a décidé que ça passerait pas. Donc, pour une deuxième fois, on a émis un avis contraire à son visa. Donc, on a annulé son visa. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va être expulsé? Parce que pour l'instant... son nom est dans le tableau. Il est numéro 1 pour ce tournoi-là. Donc, de quelle façon ça va finir? Le tournoi commence lundi. Là. Il serait temps que ça se décide. Les joueurs sont partagés. Il y a Tsitsipas hier qui en a donné une popée varlope là, en disant qu'il joue selon ses règles puis qu'il veut pas coopérer Djokovic, etc. Puis il y a d'autres joueurs qui ont fait « gagner là, laissez-les jouer ». Donc, j'ai bien hâte de voir de quel côté ça va pencher cette histoire-là.
Jean-François, je te souhaite une excellente fin de semaine. On se reparle lundi.
À toi aussi. Bye-bye. Salut.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado, Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio. Philippe-Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité, une vision nouvelle des enjeux de la société.
Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio.
Bon, ça va être lundi, le retour en classe pour les jeunes du primaire, du secondaire. Il y en a beaucoup qui l'espéraient, beaucoup qui l'attendaient, mais il y en a beaucoup qui sont inquiets de voir qu'il n'y a pas nécessairement de meilleures mesures pour protéger les enseignants. On en parle tout de suite avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, Monsieur Foisy.
Qu'est-ce que vous dites aux professeurs là, qui ont entendu votre annonce hier, qui ce matin sont encore très inquiets?
Ben, je vous dirais que c'est un plan qui a été réévalué et approuvé par le nouveau directeur de la santé publique, Dr Boileau, et qu'on ne revient pas dans les mêmes conditions qu'on avait préalablement. Ce qu'on n'avait pas lors des vagues précédentes, c'était une troisième dose pour le personnel enseignant. C'est une grande disponibilité des tests rapides. On va en distribuer plus de 7 millions dans les prochaines semaines aux familles. Et c'est aussi une plus grande accessibilité aux masques de procédure. On va pouvoir changer en cours de journée aussitôt qu'il est humide. Puis ce qu'on a appris dernièrement, c'est qu'aussitôt qu'il est humide, il perd son efficacité. Ouais. Donc on aura des facteurs de protection de plus.
Mais leur inquiétude, elle se base sur quoi de base? Ils sont inquiets pour être inquiets? Parce que j'ai l'impression, si je vous entends, faut pas être inquiet. Ça devrait bien aller. Si je les écoute, ça va quand même aller un peu tout croche, là.
Mais non, je veux pas dire qu'il y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut être vigilant. On fait quelque chose qui n'a jamais été fait encore, même si c'est une cinquième rentrée en temps de pandémie. C'est toujours différent parce que la situation évolue, parce que, écoutez, on n'a jamais fait de rentrée avec autant de propagation au Québec. Mais en même temps, comme l'a dit le Dr Boileau hier, il faut pas comparer Omicron avec Delta, puis avec la première variante de la COVID-19. Même Dr Boileau, il disait, c'est pas un nouveau virus, mais il est tellement différent des autres qu'il faut le traiter comme un nouveau virus. On peut pas appliquer les mêmes recettes. Dr Boileau disait qu'il était beaucoup moins dangereux que les autres, en fait.
Ouais, pour les jeunes, mais pas pour
les
profs.
Siens, donc, je pense qu'il faut se fier, je pense, aux experts de la santé publique puis au nouveau directeur national de la santé publique.
Ouais. Des fois, on a l'impression qu'il est là pour approuver les décisions du gouvernement plutôt que donner des avis scientifiques. Là. Sa crédibilité va être à établir au cours des prochaines semaines. Pourquoi il n'y a pas de test rapide pour les jeunes du secondaire via les écoles? Déjà que c'est assez compliqué d'aller en chercher dans les pharmacies.
Avant, là, écoutez, Dr Boileau, c'est quelqu'un qui a été dirigeant de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. C'est quelqu'un qui a été directeur de la santé publique. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un dont la crédibilité est déjà établie. Maintenant, vous me parlez de l'accessibilité aux tests. Ce qui a été, je vous dirais, choisi, ce qui a été décidé, ça a été d'offrir les tests d'abord et en priorité dans les écoles préscolaires et primaires à travers les sacs à dos des élèves, si j'ose dire, plus de 3,6 millions dans les deux prochaines semaines, parce que c'est là où la couverture vaccinale est la moins élevée. Ensuite, tout le monde va y avoir accès vraiment très bientôt, parce qu'on va en recevoir des millions, et ce sera plus facile de s'y procurer en pharmacie. Je sais qu'en ce moment, les gens disent « Ouais, mais quand je vais sur Internet, c'est difficile », mais ça va vraiment changer dans les prochains jours.
Mais en même temps, c'est parce qu'un parent, les parents qui nous disent « Oui, mais j'ai besoin d'un test rapide négatif pour retourner mon enfant à l'école après 5 jours, puis j'en ai pas de test. »
Oui, mais on n'est pas rentré non plus à l'école, on va rentrer lundi prochain.
Dans 3 jours.
Supposer... Non, mais écoutez, là, vous dites « Je l'ai pas tout de suite ce matin », je suis d'accord, mais écoutez, on va rentrer la semaine prochaine. Si jamais il y a des cas positifs, il faudra attendre 5 jours. Et d'ici là, les tests seront disponibles.
Donc, mettons, dans une semaine, vous dites les parents du secondaire qui veulent des tests rapides vont en avoir.
Ah oui, l'accès en pharmacie va être là.
Pour tous les parents au Québec qui veulent des tests rapides.
Écoutez, je vous vous répète ce que m'ont dit les gens qui font les approvisionnements.
Mais non, mais on enregistre ici. On enregistre ici. Fait que dans une semaine, je vais vous rappeler. Dans les dernières
semaines. Tandis que là, on me dit que l'approvisionnement, ça s'en vient là.
Bon. Deux questions. Une rapide pour le sport. À quel moment le retour du sport pour les jeunes va se faire?
Aïe, aïe, aïe. J'aimerais tellement vous donner une date. On ne l'a pas en ce moment, là, comme l'a dit le premier ministre. Puis docteur Dubé, il n'y a pas docteur Dubé, mais le ministre Dubé hier. On n'est pas sorti quand même de la crise. Là. Oui, on lève le couvre-feu. On ramène les jeunes à l'école. Mais il reste encore des mesures.
Donc,
il
faut être patient pour les sportifs.
Qui concerne le sport.
Bon. Pardon? Il faut être patient si on est sportif.
Oui, il faut être patient. Puis j'avoue que le premier ministre et moi, on est, et même Isabelle Charest aussi, la ministre déléguée qui s'occupe de l'éducation, des loisirs et sports, on est moins patient. On a très hâte de ramener plus de normalité dans la vie des jeunes puis dans les écoles. Mais il faut quand même attendre encore un certain temps avant de ramener le parascolaire et le sport.
Bon. Là, j'ai une question, une dernière, sur la ventilation. On en a beaucoup parlé. Des experts encore ce matin qui disent que les classes sont mal ventilées, ça prendrait des purificateurs d'air, ça prendrait davantage d'échangeurs d'air. La santé publique dit que c'est pas utile. J'aimerais ça comprendre ce que la santé publique vous dit ou vous explique pourquoi c'est pas utile. Parce que les citoyens ne comprennent pas pourquoi la santé publique dit que c'est pas utile. Puis on pose la question, on se fait dire ben c'est pas utile. Avez-vous des raisons, des explications? Que comprenez-vous pourquoi ils disent que c'est pas utile?
Oui, absolument. Écoutez, ils ont la santé publique ont mandaté un rapport, pas un rapport, mais un comité d'experts, je ne sais plus si c'est 12 ou 15 experts indépendants, faire le tour de cette question-là, les conclusions du rapport.
Mais est-ce qu'on a fait des tests dans nos classes avec des purificateurs d'air ou on a juste évalué la littérature scientifique qui existait?
Je pense que l'évaluation portait sur la littérature scientifique. Ce que disent ces experts indépendants, c'est que ce qu'il faut faire, c'est pas tant brasser l'air ou tenter de filtrer l'air, c'est qu'il faut sortir l'air. Quand on dit aérer...
Comme là, un échangeur d'air.
Exactement, un échangeur d'air. Ouais. Toute technique qui permet de sortir l'air vicié et faire entrer de l'air frais de l'extérieur, c'est ça qui est à privilégier. Ce qu'on appelle les purificateurs d'air, ce qui a fait, c'est que ça brasse l'air intérieur. Et ce que disent les experts, c'est que ça a tendance à maintenir en suspension des gouttelettes et des aérosols parce que ça brasse l'air. Alors, plutôt que ce qu'on doit faire, c'est sortir l'air et faire entrer de l'air frais de l'extérieur.
Bon. Monsieur Roberge, on avait un temps très limite ce matin. On a d'autres questions, alors on va vous réinviter très bientôt.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Monsieur Roberge.
Merci, au revoir.
Culture et société.
Oh, Anaïs, on dirait que je voulais pas arrêter d'écouter ça.
Ben,
je t'aurais comme laissé jouer, puis mais je vais, faut que je le réécoute, je présume. Hein,
ben, il faut que tu le réécoutes, puis tu vas entendre cette belle voix-là ce dimanche. C'est la voix de Christelle Mongeau, c'est beau sur un moyen temps, qui sera du variété de Star Academy, premier ce dimanche, 16 janvier. Christelle, qu'on a pu voir à Mixmania, entre autres, ancienne candidate de La Voix également. Donc, hier, c'était la dernière émission, vraiment, des auditions, l'audition finale, en fait, de Star Academy. Au total, on nous présentait les 30 candidats. Donc, il y en a 5 qui sont directement déjà des académiciens, 14 aspirants académiciens. Hier, sur 7 performances, 3 ont été sélectionnés pour participer à l'émission ce dimanche, et ça va commencer fort. OK, là, Philippe Vincent, Daniel Bélanger, qui est un artiste qu'on ne voit pas régulièrement sur des plateaux de télévision, lui qui célèbre cette année ses 30 ans de carrière. Donc, il sera de la partie ce dimanche. C'est le retour aussi dimanche des artistes internationaux, Tell Mill Kitchens, entre autres. Alicia Cara également sera là. Simple Plan, l'artiste Julien Clerc, et la grosse nouveauté, oui, là, on méga coup d'envoi, et cette cette année, on a décidé de mettre de l'humour à tout ça. Donc là, on a un nouvel animateur, on le sait, c'est Marc Dupré qui sera à la barre de l'émission les dimanches. Et on a fait appel à plusieurs humoristes, tels Dominique Paquet, entre autres, Ariel Charest, qui est la pro du lip-sync, P.A. Méthode, Patrick Groulx, la chanteuse Roxane Bruno, qui est une fan finie de Star Academy. Et à chaque semaine, on sait qu'il y a toujours 3 candidats en danger. Donc, il y aura toujours des humoristes sur scène pour rendre hommage d'une façon très cocasse à ces candidats. Donc, ça promet, là, je te dirais, pour la seconde saison de Star Academy 2.0, nouvelle maison à Waterloo. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça ce dimanche.
Et là, un mot sur cette comédienne de la série Doute raisonnable, ouais, qui était un peu dans l'embarras là, pour avoir insulté des policiers sur les réseaux sociaux.
C'est ça qui se passe. C'est Nadia et Sadiki, que l'on connaît également sous le nom de La Bronze, donc qui est une chanteuse aussi, qui, interprète une policière dans Doute raisonnable. Là, elle a publié une photo sur les médias sociaux d'elle, habillée en policière, mais elle a ajouté les lettres sur son habit en rouge ACAB. Donc ça veut dire « All cops are bastards », donc tous les policiers sont des salauds, et c'est en fait un slogan anti-policier qui est né dans les années 20, qui a été ressuscité en fait ensuite dans les années 80, qui a été repris par les skinheads, qui incite vraiment là, à la rébellion à l'égard des policiers. Donc là, c'est assez particulier, tu sais, qu'elle ait mis ça sur les médias sociaux. Donc là, la production est sortie disant « Écoutez, ça reste qu'une comédienne, c'est un humain à part entière, donc elle a le droit, évidemment, de faire ce qu'elle veut sur les médias sociaux. » Mais ce qui est particulier, c'est qu'en dessous de sa photo, elle a mis le mot clic doute raisonnable. Donc là, ce n'est pas juste je mets ce que je veux sur les médias sociaux, c'est elle a fait un lien direct, tu comprends, avec la production. Émilie Perrault, qui est la tête d'affiche, a passé plusieurs semaines avec des policiers afin vraiment d'apprendre bien le domaine. Donc là, c'est un peu particulier parce que les policiers se sont impliqués dans cette série-là. Et là, par la suite, ben, il y a une des comédiennes qui sort, tu sais, incitant les gens un peu à la grogne envers les policiers. Donc, c'est un mauvais choix. La comédienne est sortie disant que jamais elle pensait que ça allait créer un émoi comme ça, mais mauvais choix de publication, je te dirais.
Oh boy! Puis là, on se laisse sur du Alicia Moffett avec un nouvel extrait.
Oui, Alicia Moffett qui nous a présenté sa nouvelle chanson, Lullaby, dimanche dernier, en fait, célébration 2022. Alors, c'était sur scène avec le cirque, c'était de toute beauté. C'est la première fois qu'elle interprétait cette chanson-là qui est disponible dès aujourd'hui sur l'application de Cube Musique. Et parlant de Cube, je vous rappelle aussi que Star Academy, la variété, sera diffusée simultanément sur notre application, sur notre station. Donc, manquez pas ça.
Si vous êtes dans l'auto le dimanche, vous savez pas quoi faire, écoutez-la sur l'application Cube. Salut Anaïs, bonne fin de semaine.
Salut. Fuck you and you and you. You think you're so brave and that I need to behave. You think you're so indispensable.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
Cube Radio.
Le commentaire de
Michel Girard, une vision des finances pas comme les autres.
Salut Michel.
Bonjour Philippe-Vincent.
Bon, de nouvelles mesures, notamment le passeport vaccinal pour les grandes surfaces, sauf les épiceries et les pharmacies.
Bon, écoute, tantôt, là, ça va nous prendre, je sais pas, je pense qu'il va falloir suivre des cours accélérés pour savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'il faut faire.
En fait, t'es mieux de dire nulle part, sauf les petits commerces, puis les épiceries, puis les pharmacies. Je pense qu'on s'en va là.
Ouais. Alors, j'ai toujours de la difficulté à comprendre l'application de telles mesures. Bon, alors, tu sais, c'est sûr qu'on voit tous. Bon, pour les commerces à grande surface, évidemment, ça vise, on le sait bien, là, les Costco, Walmart, Canadian Tire de ce monde. Mais quand on parle de commerce à grande surface, on s'entend-tu qu'un métro, un IGA, un Maxi, un Provigo, c'est pas un commerce de petite surface? On s'entend-tu qu'il y en a du monde? Alors, je comprends pas que là, on l'impose pour les Costco de ce monde, mais on l'impose pas pour les grandes épiceries où c'est chargé de monde. Écoute, il suffit d'aller faire son épicerie soi-même pour s'en rendre compte. Alors, c'est sûr que tout ça, c'est évidemment, je comprends que c'est un service essentiel, l'épicerie. Mais entre toi puis moi, là, si tu veux vraiment pénaliser les anti-vax, ben, tu les forces à faire leur commande par téléphone. Tu sais, pour avoir accès là, aux produits des Métro IGA, Maxi et Provigo. Mm. Or, il y a comme... C'est tellement, comment dire...
Incohérent.
C'est pas clair. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, si tu juges extrêmement important, justement, de demander le passeport vaccinal, ben, coudonc, il faut que tu l'élargisses puis tu forces les anti-vaccins, justement, les anti-vax à utiliser d'autres moyens que de se rendre sur place pour acquérir leurs marchandises, acheter leurs marchandises. En tout cas, bref, j'en arrache beaucoup avec ça. Manifestement, bon, évidemment, on lève le couvre-feu, le retour aux écoles. On sait bien là, qu'on veut repartir, tu sais, dans le fond, là, on veut repartir la machine économique là, pour un semblant de normalité à tout le moins. Mais bon, Dieu que c'est compliqué. Hey, entre nous, n'aurait-il pas été beaucoup plus simple d'imposer le vaccin?
Ben, sous peine d'amende, puis t'as mis en place tout de suite, puis au lieu d'avoir un vaccin
Tout le monde vacciné, sauf les cas exceptionnels, évidemment, il y en a toujours. Mais regarde, ça aurait été tellement plus simple. Là, tu mets en place 52 000 mécanismes de contrôle, justement pour empêcher les anti-vax de contaminer la population. Mais c'est tellement compliqué, tout ça pour un groupuscule de gens qui refusent, il me semble que ça aurait été un bien meilleur moyen. En tout cas, j'ai de la misère vraiment
simple,
là-dessus. Là. Ouais. Puis c'est de voir la peur du gouvernement de l'imposer. Écoute, j'en arrache de ce côté-là. Puis là, on se ramasse. Bon, là, on... Tu sais, je comprends pas pourquoi bon, dans les commerces à grande surface, OK, on va demander le passeport vaccinal. Tu avais pour les théâtres, les cinémas, le passeport vaccinal. Hein, il me semble qu'on l'exigeait. Bon, eux autres, ils restent fermés. Pensez-y, là. Les restos restent fermés. C'est toute la logique là, derrière là, où j'en arrache. C'est permis pour l'un, c'est pas permis pour l'autre. Mais pendant ce temps-là, tu peux aller sans qu'on te demande ton passeport vaccinal dans les grandes épiceries. Où c'est plein de monde. Non, mais c'est plein de monde. Là. C'est pas compliqué. Là. C'est tellement plein de monde que tu fais. Avant d'entrer, tu fais une ligne. Pense-y, là. T'es collé, là.
Ah, regarde, Michel, je. Hein? Prenons facile, la fin de semaine pour réfléchir à tout ça. Profiter du froid à l'extérieur pour essayer d'y voir clair. Peut-être que lundi, ça va être un peu plus clair une fois que.
Autrement dit, ce que tu me dis, c'est qu'on va mettre ça sur la glace pour le week-end?
Oui, c'est ça. De toute façon, ça entre tout en vigueur lundi ou mardi prochain ou dans le 24 pour les grandes surfaces. Fait que on va y arriver, Michel. Bonne fin de semaine. Là.
Salut.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Michel Girard est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio. Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de société.
Cube Radio.
Cube Radio.
Cube Radio.
Vous écoutez Philippe-Vincent Choisy.
Cube Radio.
Une autre vision de l'actualité.
Cube Radio.
En direct à Salut.
Pour l'instant, allons voir Philippe Vincent Choisy.
Oui, pour réagir, bien sûr, et analyser toutes les mesures, parce qu'il y en a eu beaucoup annoncées hier, des annonces. D'abord, du côté des écoles. Le gouvernement est toujours aussi réticent à reconnaître l'importance de la ventilation, de l'amélioration de la situation.
Oui, d'essayer d'expliquer, de rassurer les gens hein, par rapport aux purificateurs d'air, aux échangeurs d'air. Vous allez avoir Jean-François Roberge tantôt, il va peut-être essayer de clarifier tout ça, là, pourquoi on n'a pas de purificateur d'air, qui dit que ça garde l'air ambiant, même si c'est censé la filtrer, que l'Ontario, que les collèges privés en ont. On mise plutôt sur les échangeurs d'air, on en a juste quelques centaines qui ont été achetés. Donc, cette question-là demeure, ça prendrait quand même un point de presse, ou du moins une conférence technique là, avec les experts pour qu'on comprenne, pour qu'on soit capable d'expliquer aux gens pourquoi le gouvernement ne prend pas cette décision-là. C'est un peu comme avec les masques N95 où on a des experts, par exemple, l'Association médicale canadienne, on a des experts de l'Ontario, du Manitoba, aux États-Unis aussi, qui recommandent ce masque-là et de plus en plus, ils le recommandent pour la population en général, alors qu'ici, on dit même pas pour les professeurs, ce n'est pas utile si on fait une révision des études scientifiques. Par contre, on le sait, la science, elle évolue. Le gouvernement politique politiquement aurait pu prendre les devants et dire, regardez, en voici, essayez-le. D'ailleurs, on pourrait mener une petite étude pour essayer d'évaluer les effets sur nos classes ici au Québec avec nos hivers pour voir comment ça fonctionne. Ça aurait pu être une occasion pour que le gouvernement, politiquement, puisse utiliser un aspect un peu négatif et sortir du positif de tout ça.
Il était pas mal question des tests rapides hier. On va en distribuer aux primaires bientôt, là, dès le retour en classe. On le fera aussi bientôt, mais pas au secondaire. Est-ce que ça t'a étonné?
Ben oui. Ce qu'on nous assure, Jean-François Robert, je me disais ça tantôt, c'est que d'ici une semaine, ils vont être assez disponibles dans les pharmacies pour que tous les parents du secondaire puissent y avoir accès. On nous dit que c'est plus simple de cette façon-là. Tant mieux, mais c'est hyper important, les tests rapides. Un enfant qui a eu des symptômes de la COVID... Bien, peut retourner à l'école après 5 jours s'il a un test COVID négatif. Pour des parents, c'est la différence entre une semaine et 2 semaines à la maison. C'est énorme. C'est énorme aussi pour les employeurs. Alors, les tests rapides vont faire partie de l'arsenal. Ça m'a surpris qu'on dise, aller dans les pharmacies, alors qu'on pourrait les envoyer dans les écoles, s'assurer que chaque élève puisse en avoir. Après ça, ça soulève aussi la question du délestage. Là, on nous dit, non, il n'y aura pas de délestage, mais on a quand même des plans, notamment de demander aux parents d'être là si jamais il manque trop de professeurs et de suppléants. Alors, Gino, Georges, je ne sais pas ce que vous faites après les émissions, mais il y a peut-être des écoles qui seraient tentées de vous appeler pour aller surveiller des classes, là, parce qu'il va manquer de profs dans certaines régions, peut-être.
Oui, oui. Mais à 10h30, on est libre. Là.
Ah, écoute, la surveillance de la cour d'école.
Ben oui, dans la cour d'école, Georges, puis à l'intérieur des classes, Gino, ça fait un bon duo, ça.
Oui, c'est ça, avec une bonne tuque. Est-ce qu'on a atteint vraiment le pic? Là? Le gouvernement semble optimiste là-dessus.
Bien, tant mieux, je le souhaite. Ceci dit, c'est encore une fois un peu difficile de voir les chiffres. Là. On n'analyse pas les eaux usées, on ne teste plus nécessairement la population de façon générale. Alors, on se base un peu sur le taux de positivité de ceux et celles qui peuvent se faire tester. Est-ce que ça représente des éclosions dans certains milieux avec des gens qui ont des comportements particuliers? C'est pas clair encore, mais tant mieux si les experts sont en mesure de dire qu'on a atteint un plateau des cas. Ça voudrait dire qu'on va bientôt atteindre un plateau des hospitalisations. Ceci dit, il faut quand même avoir une pensée durant la fin de semaine pour le personnel de la santé qui va être encore frappé avec cette hausse qui continue d'augmenter dans le système de santé. Sérieusement, quand eux voient la levée de certaines mesures, doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment au Québec? On espère que ce plateau-là va être atteint. On espère pouvoir redescendre par la suite. Il va falloir aussi se poser des questions. Comment ça se fait qu'à peu près la moitié des cas COVID à l'hôpital sont des gens asymptomatiques? Est-ce que ça veut dire que la prévalence de la maladie dans la société est beaucoup plus grande qu'on le pense? C'est une des questions qu'on pourrait se poser maintenant là, pour avoir une meilleure idée de l'immunité collective, de la troisième dose et autres. Là.
Merci Philippe-Vincent.
Bonne fin de semaine à vous deux.
Cube Radio.
Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Bon, il annonce pas mal froid durant la fin de semaine, moins 17, moins 14, la neige lundi, vous les avez entendus tantôt, Mario Dumont, Benoît Dutrisac, qui n'aime pas l'hiver. Est-ce qu'il y a moyen d'aimer ça? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose, de sortir quand vous voyez vos ados devant vos écrans, vos jeunes qui sont devant vos écrans, devant des écrans qui ne veulent pas nécessairement sortir? Là, on avait la professeure tantôt qui nous disait « Le frigo appelle beaucoup plus les jeunes et les écrans que d'aller jouer dehors. » Comment on peut faire? Comment on peut aimer cet hiver-là? On a pensé en ce vendredi matin d'appeler Frédéric Dion, aventurier, conférencier, qui lui aime ça, jouer dehors l'hiver, aime ça se promener aussi, des fois, bon, tout seul dehors, survivre sans eau, sans nourriture, dans certains endroits les plus éloignés du monde. Monsieur Dion, bonjour.
Bonjour.
Sans nécessairement partir 10 jours en ski de fond en Antarctique, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec pour aimer l'hiver?
D'abord, moi j'ai une confidence à vous faire. Hein. J'aime pas l'hiver.
Hein? Ça commence mal.
moi, j'ai une autre confidence à vous faire. Je suis frileux.
Mais ça, comme bien du monde, je présume. Là.
J'ai traversé l'Antarctique à ski, puis je suis frileux. mais je me dis une chose. À regarder ce que l'on n'a pas, on finit par gâcher ce que l'on a. L'hiver, ben, tu sais, le Québec, c'est notre pays. Et puis la neige, l'hiver, ben, c'est quelques mois par année, puis on a le choix, on peut détester ça, on peut fuir l'extérieur, on peut trouver ça fret à chaque fois qu'on fait des transitions entre l'auto, la maison, les endroits où est-ce qu'on va, ou ou s'habiller comme faux. Il n'y a pas de mauvais, il y a pas de mauvaise température, il y a juste des gens mal habillés, en fait. Mm. Donc, s'habiller comme faux, avoir les bons vêtements, puis aller voir ce que l'hiver peut nous offrir. Parce qu'on a aussi la chance de vivre ça, l'hiver, d'avoir le patin, le ski, les activités. On peut s'essayer, puis honnêtement, là, toutes les gens qui se sont essayés, qui se sont bien habillés pour le faire, en ont retiré quelque chose, puis pour plusieurs amis que j'ai, qui, entre autres, il y en a qui faisaient de la course, puis la course, c'était juste l'été, parce que l'hiver, c'est frette, là. Mm. Courir dehors l'hiver, là, dès qu'on s'active un peu, on oublie le froid, puis là, c'est l'endorphine, puis toutes les bonnes drogues que notre corps est capable de produire qui embarquent, puis finalement, on peut aimer ça.
Donc, on commence quoi? On va au parc, on regarde ce qui se passe, il y a une patinoire, j'ai des vieux patins, je vais les faire aiguiser, puis on essaye ça durant la fin de semaine, on s'achète une paire de skis de fond, un kit, à quel point, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être un peu bloqués par le fait qu'il faut s'acheter quelque chose. Souvent, c'est ça. T'sais, souvent, c'est l'excuse de « on n'a pas besoin de m'acheter ça », puis finalement, on fait rien. Ça, c'est l'excuse que j'ai des fois, mais que j'entends aussi beaucoup, là.
Ben d'abord, pour ceux qui sont frileux comme moi, la seule façon de s'en sortir, il faut bouger. T'sais, si l'idée c'est de prendre une marche puis qu'on n'augmente pas notre rythme cardiaque puis qu'on n'a pas chaud, l'hiver est frais. Après ça, oui, on fait souvent l'erreur de penser que ça prend des équipements puis sur ma page Facebook aujourd'hui, j'ai partagé une vidéo où je vous montre comment construire un Quincy, un abri de neige.
OK.
Ça prend pas d'équipement. Tu sais, je veux dire, ça prend des pantalons de neige, des bottes, des gants, un truc, mais tu sais, ça prend pas de ski, ça prend pas d'habileté particulière.
Ça prend une pelle.
Juste une pelle. Puis même là, ça se fait sans pelle. Mais bon, ça, c'est peut-être pour les gens qui sont un peu plus en forme. Juste de sortir puis de se mettre en action puis de le faire. Puis tu sais, glisser, là, ça prend pas grand-chose pour glisser. Ça peut prendre juste une boîte de carton. Fait que je pense qu'on faut, on se justifie de ne pas passer à l'action parce que par plein de raisons comme le froid, par les équipements ou peu importe, mais dans les faits là, ça prend pas grand-chose pour aller jouer dehors puis en profiter puis avoir du fun.
Ouais, surtout que là par exemple les parents d'enfants qui vont nous écouter qui regardent leur enfant puis qui se disent voyons, il sort pas dehors, tu sais. Les parents sont assis au bout du divan, puis eux non plus sortent pas dehors. Des fois, il faut comme montrer l'exemple. Ça pourrait être une motivation de plus de dire, bon, là, il faut que mon enfant se mette à bouger, il faut que je le sorte, puis pour que ça arrive, il faut que moi, je me motive à y aller. Là.
Exactement, exactement. En fait, nos enfants, là, peu importe ce qu'on va leur dire pour les guider dans la vie, ce qu'ils vont retenir de nous en premier lieu, là, c'est l'exemple qu'on va donner.
Mm.
Dire à son enfant va jouer dehors, mais puis mieux que ça, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne qu'on aime, c'est de lui donner de son temps. Ben vas-y, joue avec ton enfant dehors. Vas-y, dis comment faire.
Mm.
Voilà.
Puis vous faites plus de l'aventure, là. Mais est-ce que ça vous arrive d'aller patiner au parc, d'aller courir dans un sentier de, je sais pas, vous êtes dans, il me semble, vous êtes dans la région de la Mauricie encore, d'aller dans la forêt enchantée, d'aller dans ces petites places-là d'hiver qui sont là juste l'hiver pour, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça, vous faites ça encore ou c'est comme,
Ben oui. Ben oui, bien clairement. Puis tu sais, avec mes enfants, là, je pars pas en expédition pendant plusieurs jours l'hiver. Fait que on sort, on joue dans la neige. L'idée, c'est vraiment de s'approprier cet hiver-là, de se laisser aller libre cours à notre créativité. Fait qu'on s'amuse en masse, oui. L'idée, c'est de bouger. T'sais, c'est sûr, ma blonde aime bien prendre des marches. Moi, j'y vais pour y faire plaisir, mais si je bouge pas dehors, j'ai pas de fun.
Mais à quel point vous pensez que ça peut prendre du temps avant d'aimer ça? Là? Parce que là, il y en a qui vont dire, ben là, je suis allé glisser, moi, semaine passée, c'était plate, j'ai eu frais, j'ai eu de la neige dans les souliers, les pantalons étaient mouillés, j'ai eu ça, c'est fini, je touche plus jamais à ça.
12 minutes.
Ah ouais?
Ça prend 12 minutes. 12 minutes, c'est le temps que le corps prend pour donner une petite dose d'endorphine. Ce que certains appellent en anglais le Jugger's High, l'espèce de
l'hormone du bonheur. Là.
Ouais, c'est ça. Ça prend 12 minutes d'action de puis tu sais bon un rythme pas à plein pouvoir, plein de machines là, mais tu sais être essoufflé. Là. Ça prend 12 minutes de bouger puis là, on se sent bien puis tu sais votre chocolat chaud sera jamais meilleur que si vous êtes allé jouer dehors puis que vous avez les joues rouges en revenant.
Ouais.
C'est pas obligé d'être longtemps. Moi, le critère pour mes enfants, là, quand on a les joues rouges, on a le droit de rentrer puis d'avoir un chocolat chaud.
Mais ça, c'est une bonne idée. Le vin aussi est bon après avoir joué dehors.
Oui.
Juste vous, personnellement, planifiez-vous d'autres aventures? Puis ça, la dernière fois que je vous ai parlé, vous étiez au Yukon, vous alliez faire comme du ski avec une grande voile. Avez-vous d'autres aventures qui s'en viennent?
Oui, ben en fait, là, je reviens du Grand Canyon. J'ai passé 3 semaines dans le Grand Canyon. Puis l'été prochain, ben j'ai d'autres trucs pour cet hiver, là. Mais l'été prochain, je me vais atteindre le centre de l'Amérique du Nord. Bon, je me suis lancé dans l'idée d'atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. Ces endroits-là s'appellent pôle d'inaccessibilité.
c'est un beau titre pour un défi, là, ça.
Oui, ben j'aime bien l'idée. En fait, tu sais, le milieu d'un continent, il y a rien de spécial. Tu sais, mettons, au milieu de l'Antarctique, là, quand je suis arrivé là, c'est du blanc, c'est de la neige. Ce qui rend le projet intéressant, c'est le chemin pour s'y rendre. Et donc là, ben, pour l'Amérique du Nord, c'est une expédition de 2700 km qui part au Mexique, qui finit au Dakota du Sud. Donc, je vais traverser l'Arizona, l'Utah, le Colorado, en vélo, à pied, en ski, en kayak. C'est un beau projet.
Ben ouais, au moins il va faire chaud.
Ben, tu sais, je reviens du Grand Canyon, là. Il faisait chaud au Grand Canyon, là. Il n'y avait pas de neige, là, mais mouillé, là, c'est quoi le plus fret? Le fret sec ou le fret humide?
C'est vrai, ça. Un fret sec, là, dans un gros parka avec une tuque puis un foulard puis les joues rouges avec un chocolat chaud, c'est bien plus agréable. Mais bon, moi, vous n'aviez pas à me convaincre. J'espère qu'on a quand même convaincu certains de nos auditeurs d'essayer ça durant la fin de semaine. Ensoleillé, mais froide. Frédéric Dion, merci beaucoup. Bonnes aventures. Amusez-vous aussi cet hiver. Puis toujours un plaisir de vous parler.
Oui, merci beaucoup.
Salut.
Allez jouer dehors. Profitez-en, même s'il fait frite un peu en fin de semaine. Ça ne dure pas longtemps l'hiver.
Profitons-en. Salut, Frédéric Dion.
Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique.
Cube Radio.
Le commentaire de
Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
Salut Sophie.
Bonjour Philippe Vincent, je commence à être un peu tanné des témoignages qui s'accumulent de différentes personnes qui sont parties dans le sud malgré les recommandations du gouvernement fédéral et qui, devant nos caméras, devant nos micros de nos collègues, se mettent à pleurer en disant « mais j'ai vécu un cauchemar parce que j'ai pogné la COVID là-bas ».
J'ai vécu l'enfer aussi.
J'ai vécu l'enfer, puis je vis un cauchemar. Ça, c'est deux mots, je pense, qui devraient vraiment être relativisés dans notre vocabulaire. Je m'excuse, mais premièrement, ces gens-là, donc, ont décidé de partir malgré les recommandations contraires du gouvernement. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Le gouvernement n'a pas interdit les voyages non essentiels, mais si tu le fais, au moins, sois discret, puis viens pas te plaindre devant tout le monde que t'as vécu un enfer ou que t'as vécu le cauchemar. Moi, je peux te faire une liste en quelques secondes, Philippe Vincent, de vrais cas de cauchemar. Parle à quelqu'un qui travaille dans le système de santé et qui s'est fait dire hier par Monsieur Legault que le week-end qui s'en vient va être la pire fin de semaine depuis le début de la pandémie. Ça, c'est un cauchemar. Si t'es en attente de chirurgie parce que t'as un cancer avancé et que ta chirurgie a été délestée, que ta chirurgie a été annulée, ça s'appelle un cauchemar. Ça s'appelle l'enfer. Si tu travailles à la maison, que t'es mère de famille ou père de famille monoparental, que tu dois concilier le travail à la maison avec une ribambelle d'enfants qui sont absolument exténués et exténuants, ça, tu peux commencer à parler d'un cauchemar ou d'un enfer. Si t'es pogné à Caillot Coco, puis que pendant 2 jours, tu manges des œufs durs, puis que t'as perdu 5 livres parce que la nourriture est mauvaise, ça s'appelle pas un cauchemar, ça s'appelle un régime alimentaire qui permet de perdre du poids en étant dans le sud. J'ai vraiment un problème avec cette attitude-là de gens qui ont voyagé à leurs risques et périls, et quand ils sont confrontés à un risque et un péril, se mettent à brailler en disant « Mon Dieu, je fais donc pitié, venez me chercher ». J'ai vraiment un malaise. Et là,
en même temps, parce que je le partage moi aussi, mais je me dis peut-être que grâce à leur témoignage,
oui,
il y a des gens qui ne partiront pas qui vont comprendre.
D'accord. Ça, je trouve que c'est un bon argument, Philippe Vincent, c'est-à-dire qu'en effet, les gens, la raison pour laquelle les gens témoignent, c'est peut-être pas nécessairement pour attirer de la pitié sur eux, c'est peut-être d'un point de vue tout à fait altruiste et de dire, bon, ben écoutez, moi, j'ai vécu quelque chose
erreurs,
de difficile.
C'est ça.
Exactement. Mais je pense, encore une fois, que toi, tu as un cœur beaucoup plus large que le mien, que moi, je suis la méchante vilaine Cruella du Rocher, et que je suis beaucoup plus cynique que toi. Non, non, mais c'est bien, parce que toi, t'es plein de bienveillance et de compassion, puis c'est tout à ton honneur, Philippe Vincent. Moi, j'ai une vision peut-être plus cynique du genre humain et je suis peut-être moins sensible à ce genre d'argument-là. Mais si c'est un point de vue altruiste, ben là, en effet, ça peut servir en effet de mise en garde pour d'autres personnes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que il y a plein de gens qui, bon, pour économiser des sous ou en pensant qu'ils seraient plus fins finaux, ont réservé des voyages dans le sud directement sans passer par une agence de voyage. Puis là, ils se retrouvent dans le sud pognés avec toutes sortes de problèmes. La compagnie d'aviation ne s'occupe pas d'eux. Puis là, ils vont frapper à la porte des agences de voyage en disant « Pouvez-vous m'aider? » Puis la réponse des agences de voyage, c'est de dire « Ben non, vous avez pas réservé votre voyage avec nous, donc on ne peut rien faire pour vous. » Et il y a des agents de voyage qui disent « Ben, face à cette situation-là, il y a de plus en plus de gens qui maintenant nous appellent et font en effet appel à des agences de voyage parce que l'agent de voyage peut vraiment t'aider. Donc, il y a du bon qui ressort de tout ça. C'est qu'à partir de maintenant, il y a peut-être des gens qui vont y penser à deux fois et qui vont préférer avoir la sécurité de passer par une agence de voyage. Ça peut en effet être un bon argument.
Ouais.
Mais faisons attention quand on parle de cauchemars puis quand on parle d'enfer. Ayons une petite pensée pour les gens dans le domaine de la santé qui, eux, vivent véritablement un cauchemar. Faut faire attention à pas banaliser ces mots-là parce que être à caillou coco, moi, j'appelle pas ça un cauchemar.
Ouais. Puis d'ailleurs, si jamais vous aviez prévu aller en voyage, vous pouvez mettre ce 700-800 000 $ sur un beau parka et commencer à apprécier l'hiver, comme nous disait Frédéric Dion
oui,
il y a quelques minutes.
Oui, tout à fait,
minutes.
J'ai entendu ton entrevue. Est-ce qu'on a un petit peu de temps, justement?
On a en masse de temps, Sophie.
On a en masse de temps. Ah, mon Dieu, j'aime ça entendre ça. Écoute, un des événements marquants au point de vue linguistique, un des événements marquants de 2021, ça a bien sûr été cette rencontre devant la Chambre de commerce de Montréal avec le président-directeur général d'Air Canada, donc son allocution en anglais seulement, et surtout la déclaration qu'il avait faite à notre collègue Monsieur Zappa tout de suite après la conférence où il avait dit ben non moi ça fait des années que je vis à Montréal, j'ai pas besoin d'apprendre le français et c'est en l'honneur de c'est un témoignage en hommage à Montréal qui est une ville où on peut très bien se débrouiller sans parler un mot de français. Ben écoute, il y a le commissaire aux langues officielles qui commence à être un peu tanné que à chaque fois qu'il blâme Air Canada qu'il y ait pas plus de réaction et qu'en fait la loi sur les langues officielles n'est pas plus de dents, n'est pas plus de mordant, n'est pas plus d'efficacité, parce que la seule chose qu'il peut faire, M. Théberge, donc notre commissaire aux langues officielles, c'est qu'il peut il doit se contenter de formuler des recommandations. Or, ce qu'on apprend dans les journaux, c'est que il a fait des représentations auprès de la ministre aux langues officielles en disant, écoutez, ce serait bien qu'on puisse avoir une punition économique, c'est-à-dire que dans le cas d'Air Canada ou de d'autres contrevenants à la loi aux langues officielles, s'il y a une punition économique, ben ça va avoir un petit peu plus d'impact. Il faut quand même rappeler que quand il y a eu cette affaire-là de l'allocution en anglais seulement, le commissaire aux langues officielles a reçu 2500 plaintes. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a au minimum 2500 personnes qui ont pris la peine de déposer ces plaintes-là. D'ailleurs, c'est un incitatif aussi à beaucoup plus de gens de porter plainte quand vous n'êtes pas content. Le seul problème, c'est que la seule chose qu'il peut faire, c'est taper sur les doigts d'Air Canada.
Dire que ce n'est pas fin.
Ben, dire que c'est des pas fins. Puis écoute, ça fait quand même des années que chaque année, le commissaire sur les langues officielles, ça fait des années qu'on tape sur les doigts d'Air Canada. Donc, c'est des grandes compagnies comme ça. S'il n'y a pas d'incitatif ou de punition, s'il n'y a pas une amende, s'il n'y a pas une sorte de contravention sur l'autoroute des langues officielles, ben, ça donnera rien. C'est sûr, l'entreprise, elle continue. Qu'est-ce que tu veux qu'elle en a à foutre des recommandations du commissaire aux langues officielles? Donc, c'est très important, je trouve, cette information-là, que le commissaire demande au ministre de donc une révision de la loi des langues officielles pour qu'il y ait vraiment beaucoup plus de mordants et qu'il y ait un incitatif économique. Je trouve que c'est très important. Mais surtout, ce que je retiens, c'est, écoute, 2500 plaintes, ça vaut la peine. Quand vous êtes pas content, et ça s'applique évidemment au fédéral, la loi sur les langues officielles, mais ici aussi au Québec, hein. Quand vous voyez, quand vous entrez dans un commerce puis que vous voyez que il y a de l'affichage qui est en anglais seulement ou dans une autre langue que le français, et que, par exemple, vous êtes accueilli par un bonjour hi ou que vous êtes accueilli par des employés qui ne parlent pas le français, c'est de votre devoir de contacter l'Office québécois de la langue française. Ça, c'est important de le rappeler, parce que l'Office ne fonctionne que sur la base d'une plainte. S'il n'y a pas de plainte, eux vont pas, de leur propre chef, rentrer dans un commerce et faire une enquête. Donc, c'est important de se plaindre, et c'est encore mieux s'il y a un incitatif économique à le faire.
Sophie, je te souhaite une très belle fin de semaine, ensoleillée et froide. Profite-en.
Oui, on va essayer de convaincre M. Martineau d'enfiler des combines puis d'aller faire de la luge en fin de semaine. Il va faire moins 92
c'est le fun
à peu près.
S'il veut, je peux tirer puis je peux remonter la pente avec lui. Je le fais déjà avec ma petite fille. Fait que...
OK, parfait. Merci à lundi.
Salut Sophie. Richard.
Salut.
Veux-tu venir glisser?
Hein?
Veux-tu venir glisser?
J'ai eu l'hiver. J'ai eu l'hiver. Et mon fils aussi.
Ah non, mais ça, il faut l'apprivoiser. Il est là chaque année.
Des sports intérieurs, s'il vous plaît. J'ai ça. Et chaque jour, on nous dit, il y a tant de nombre de cas, il y a tant de nombre d'hospitalisations et il y a tant de décès.
Ouais. On nous dit même plus le nombre de cas.
J'aimerais ça savoir qui. C'est qui ces gens-là? Leur âge? Est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas? Il me semble que ce serait un très bon indicateur.
Sur l'INSPQ, il y a des graphiques avec l'âge.
Avec l'âge.
Mais on n'a pas la statue vaccinale.
Ben, et j'aimerais ça savoir, est-ce que c'est les vaccinés, les pas vaccinés? J'aimerais ça qu'on nous le dise. Et là, on ne saura même pas dans les classes, dans les écoles, il y a combien de cas dans les écoles et dans les classes?
Ben non.
Aucune idée.
Non, on ne teste plus.
C'est incroyable. Et donc, il va falloir se fier aux parents.
Ben oui.
En France, sur France Inter, tu sais que les étudiants, les enseignants sont en grève,
à cause de ça, notamment.
Et entre autres, ils disent, écoute, il y a des témoignages d'enseignants sur la page de France Inter, sur leur site Internet. Ils disent, il y a plein de parents qui falsifient les résultats de leur enfant, en disant, mon enfant n'a pas COVID alors qu'ils l'ont.
Non, dans les garderies, juste avant Noël, on avait ça aussi. Tu sais, des jeunes qui étaient envoyés en garderie, plein de Tylenol dans le corps, pour pas avoir de fièvre quand ils arrivent à la garderie, parce qu'ils prennent la température dans les garderies. Fait qu'on donnait des Tylenol, la fièvre baisse.
Ben voilà, c'est bien irresponsable, ça. My God, bon week-end.
Richard, bonne fin de semaine, il va faire beau. Mettez de la crème solaire, allez jouer dehors, du ski de fond, du patin, de la glissade. Let's go.
Cube Radio.